L'instant addicto. Bonjour à toutes et à tous, l'instant addicto, Sophie Deloume, j'ai le plaisir de recevoir deux infirmiers addictologues, donc Linda Deschamps, bonjour Linda.
Bonjour.
Et Vincent Morisot, bonjour Vincent.
Bonjour.
Mais voir avec vous un peu ce chemin qui a été fait, le regard, la modification du regard, le changement par rapport aux addictions, Linda Deschamps et Vincent Morisot. C'est qui commence?
Je t'en prie Linda, on va laisser l'expérience.
On va, déjà je
oui, où vous exercez,
me présenter,
oui,
voilà.
S'il vous plaît.
Linda Deschamps, je suis infirmière, je travaille au XAPA, le centre de soins, oui, d'accompagnement et de prévention en addictologie de la Vienne. Je suis détachée sur la prison de Vivonne. J'exerce là-bas en tant qu'infirmière en addictologie. Vincent?
Vincent Morisot, moi je suis infirmier aussi depuis une dizaine d'années. Récemment arrivé sur l'équipe du XAPA, ouais, où j'ai rejoint Linda notamment. Moi j'ai plutôt exercé dans le domaine de la psychiatrie un peu plus classique.
Santé mentale classique.
En santé mentale, voilà. Alors évidemment, tout ça se recroise, donc j'ai, durant tout le temps où j'ai travaillé à l'hôpital à Bordeaux à l'époque, pu croiser des personnes qui souffraient de troubles addictifs, conjointement à leur pathologie psychiatrique. C'est une évolution qui est assez logique.
Cohérente.
Ouais. C'est cohérent.
Assez cohérente et logique.
La santé, voilà, mentale aux addictions, ouais, oui, le chemin, voilà, est très très court. Donc c'est intéressant d'avoir votre regard par rapport à vos chemins singuliers, à l'un et à l'autre en tant qu'infirmier addicto, par rapport justement à ce regard sur les addictions, au regard de la législation, au regard des usagers, au regard de la population. On a toujours l'impression encore un peu d'une stigmatisation, voire de votre côté, par rapport à la population que vous recevez ou que vous rencontrez en milieu carcéral. Est-ce que le regard change? On a quand même la chance en France d'avoir un accès aux soins, que ça soit du Basseuil, comme on dit, ou que ça soit la méthadone. Tout le monde ne l'a pas dans le monde entier. Quand on regarde un peu d'un pays à un autre, hein, ce que l'ONU, le quatrième rapport en 2023, met aussi en exergue, mais qui montre aussi du doigt la France. Hein. L'ONU montre quand même la France du doigt au niveau des places en incarcération. C'est pour ça qu'on peut ouvrir aussi le débat sans polémiquer, sans moraliser, parce que c'est un débat, je trouve, au niveau du public, qui est encore moralisateur au niveau des addictions, même si on sait que c'est une maladie chronique, cérébrale ou autre. Entre autres, on est encore un peu dans des regards, surtout on est dans le sud Vienne ici, on est encore avec quelques personnes encore sous un regard de vice, comme quoi c'est encore un vice. Et on a ce regard aussi légalisé, dépénalisé le cannabis tout de suite. Si on dit, déjà il y a une différence au niveau des termes, de la signification, dépénalisé, légalisé, c'est pas la même chose. Et après c'est qu'il y a du sens derrière, c'est, ouais, pas pour une libre circulation comme ça, tout bien va, sûr, allez droguez-vous, c'est magnifique.
Après nous on va vous parler de notre exercice, oui, hein, qui est professionnel, et tout le côté légalisation, c'est pas vraiment notre domaine, mais effectivement en travaillant en prison, on doit en avoir connaissance. Nous ce qu'on voit, alors moi je pense pas qu'on banalise, enfin c'est pas ce que j'observe depuis une dizaine d'années. Je pense que justement le sujet est mis sur la table et on prend conscience que qu'effectivement c'est une pathologie chronique, et ça je crois que c'est très très important à dire aux gens, parce que ça change vraiment le regard à partir du moment où on se dit qu'on tombe dans une maladie qui est chronique, donc ça veut dire qu'il va peut-être exister sur tout le long de la vie avec des rémissions, des rechutes, voilà, et qu'on peut être soigné aussi, ça c'est important. Alors après, en milieu carcéral, évidemment, on est confronté, nous on est dedans, c'est notre exercice. Moi, ce que j'observe, c'est que ce qui m'inquiète en tant que soignante, c'est ça touche les plus en plus jeunes, ils tombent dans l'addiction de plus en plus tôt.
Vous avez un âge à peu près, Linda, par rapport, quand vous dites de plus en plus jeunes
en carcéral, déjà, on a des jeunes qui arrivent à 18 ans. Moi, il y a 10 ans, les gens de 18 ans, je les voyais pas en détention.
D'accord.
Voilà. Aujourd'hui, on peut à 18.
Le curseur change.
Voilà, ça change. Et là où je suis d'autant plus inquiète, et faut se dire les choses comme elles sont, c'est je vois des jeunes incarcérés pour des faits de délinquance, peu importe, qui commencent à consommer en détention.
D'accord. Donc l'expérimentation se fait pas à l'extérieur, comme on le dit au lycée souvent. Après, je ne sais pas en termes de consommation, de quelle consommation, de quel produit vous parlez. Hein.
Je vais vous dire de tout produit.
De tout.
Hein. Oui. Nous, on fait tout pas trop de différence. Hein, sur, ouais. À partir du moment où on est touché par la pathologie, c'est-à-dire l'impossibilité de ne pas consommer, quel que soit le produit, nous, on fait pas trop de différence. On travaille pas on travaille pas avec le produit. On travaille vraiment avec les conséquences. Donc, mais oui, le fait de commencer en détention, ça, c'est inquiétant. Et faut, voilà.
On peut faire aussi de l'inverse. La personne ne serait pas incarcérée, on se rendrait compte qu'il n'y aurait pas d'expérimentation, elle ne tomberait pas dans cette consommation pathologique.
Sur certains, ce n'est pas généralisable. Sur certains, oui, bien sûr. Mais ça peut.
Vous en pensez quoi ?
Moi, je n'ai pas le recul qu'a Linda par rapport à la prison, donc j'ai pas vu cette évolution-là à travers une pratique. Mais je fais confiance à Linda là-dessus. Je trouve que la question, elle peut se poser... on peut avoir un prisme de lecture encore plus large... Donc effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'en France, on fait partie des « mauvais élèves », entre guillemets, vis-à-vis des addictions. Si on regarde en tout cas les chiffres en Europe et que les jeunes français font partie des plus gros consommateurs de cannabis notamment, mais pas que.
Deux fois plus.
Deux fois plus, ouais, c'est monstrueux. Ça représente 8%, je crois, des jeunes.
9%, oui.
Alors, pas forcément avec des dépendances diagnostiquées, mais en tout cas un trouble de l'usage, quoi, avec un usage nocif. Après, ça, il faut le considérer. Alors, effectivement, au vu de la politique qui a été engagée depuis des années là-dessus, mais on peut aussi regarder d'autres choses, l'accès aux soins qui s'est détérioré depuis des années. Et puis, quand on regarde de plus près comment s'instaure un problème d'addiction dans le cerveau d'un jeune vulnérable, puisque là, c'est d'eux qu'on parle, c'est aussi souvent parce qu'il y a des manquements à l'épanouissement et dans l'existence de cette personne. Et c'est quand même des générations qui se trouvent dans des positions qui sont différentes des générations précédentes, avec des promesses d'avenir qui sont pas les mêmes non plus.
C'est existentiel, ouais.
C'est existentiel, ouais. Alors, c'est pas pour faire forcément des liens entre toutes les problématiques, mais n'empêche que habiter le monde aujourd'hui quand on a 15 ans, c'est pas la même chose que l'habiter il y a 50 ans.
Est-ce que vous pensez que que la Covid a laissé des traces ? On se rend compte, on est en 2024, que le temps passe, il y a des personnes qui ont subi la Covid long. Et là, on parlait un peu de la population jeune, parce que l'expérimentation se fait, hélas, en milieu carcéral. Et vous, Vincent Morisot, de mettre le curseur aussi sur l'existentiel, c'est quoi être jeune aujourd'hui ? Ce serait de grands débats radiophoniques, d'ailleurs. Et que peut-être, là, je pointais juste la Covid, qui a été aussi traumatique, et on se rend compte qu'il y a des conséquences.
Je pense qu'elle a juste mis en lumière, en fait. Focus. Et puis, entre ça et tous les autres comportements, tant au niveau des addictions qu'au niveau de la santé mentale, qu'au niveau du lien à l'autre. Nous, dans notre exercice, on a l'habitude de dire que l'addicto, c'est la pathologie du lien à l'autre. Oui. Si on se sent pleinement investi dans un environnement et où on se sent à l'aise, et souvent, on aura peut-être effectivement des consommations, mais on n'en arrivera pas à être soumis à la maladie. C'est très différent. Et les jeunes, effectivement, sont de plus en plus vulnérables. C'est vrai qu'on entend ça, une espèce de fatalité, moi, chez les jeunes gens que je prends soin en détention. Alors déjà, on a pratiquement, genre, je vais dire, 95% de ces jeunes qui ont un parcours abandonnique, de placement, bien souvent, des carences affectives béantes. On a des jeunes gens qui sont complètement en jachère, qui arrivent, qui n'ont pas été éduqués, qui connaissent pas la différence entre ce qui peut être bien, bon pour soi et pas forcément bien. Assez désespérés, alors avec beaucoup de ressources. Et c'est là où le travail est très intéressant, parce qu'à cet âge-là, ça fonctionne très bien dans le lien. Mais un espèce de constat comme ça, où effectivement, j'ai un peu le sentiment de Vincent, et pourtant, on n'est pas très âgés, mais j'ai quand même le sentiment qu'on a laissé, un petit peu notre jeunesse sur le côté, ouais. On les a un peu... Et ils font comme ils peuvent.
On fait une première pause musicale. Qui a choisi le premier morceau ?
C'était moi, je crois. J'avais proposé d'écouter Amy Winehouse, Mr. and Mrs. Jones.
On écoute.
When I did, can't believe you played me.
reprend l'émission, l'Instant Addicto avec Sophie. J'ai le plaisir d'accueillir Linda Deschamps et Vincent Morisot, infirmiers addictologues. Et on échangeait un petit peu sur cette jeunesse, quelle est-elle maintenant et comment elle peut aborder, comment elle peut s'armer dans le bon sens du terme pour affronter la société. D'un côté, le soin a évolué, mais cette jeunesse un peu déracinée, dirons-nous, qui n'est pas du tout incarnée. Et une jeunesse par rapport à comment faire face au niveau existentiel, par rapport à ce monde et qu'est-ce qu'on peut leur offrir. Moi, ça me pose question, je dis souvent nos jeunes. C'est un peu possessif, mais c'est un petit peu comme si on était tous concernés. Hein. Comme vous le disiez, Linda Deschamps, des jeunes qui vont s'initier aux produits en milieu carcéral. Hein, et comment les reconstruire, comment retricoter leur histoire pour, à un moment donné, il va falloir qu'ils sortent du milieu carcéral. Et comment vous faites pour les accompagner, ces jeunes?
On fait rencontre. Dans un premier temps, on fait rencontre. Voilà. On arrive avec ce qu'on est, on voit, En tout cas, nous, on se positionne. Il faut pouvoir entendre la souffrance, les sévices, parce que rien n'arrive sans rien. Qu'un jeune consomme, bon, on peut dire qu'à peu près. Alors, je lisais, je crois que c'est 80% des jeunes qui vont s'initier, mais on en a quand même un gros pourcentage qui reste dedans. Et c'est ceux-là qui sont les plus vulnérables et ceux avec qui on travaille. Comme on bosse, on fait rencontre, on fait confiance. On se fait confiance aussi et on y croit. Après, il n'y a pas de recette miracle. Et on invite aussi à faire des choix, à faire d'autres choix pour soi, pour son avenir. J'essaye d'offrir quelque chose de positif où les choses, elles peuvent vraiment changer parce qu'on a aussi des réussites. Moi, j'ai des patients que j'ai suivis longtemps qui vont très bien. Non, et on travaille aussi sur tout ce qui est à côté parce que moi je me focalise pas forcément sur la consommation. Par contre, je me focalise sur le lien, sur un endroit sécure pour pouvoir habiter, être en capacité aussi de travailler parce qu'on demande, il faut absolument travailler. Non, d'abord il faut être bien, il faut accepter d'être malade, il faut se poser un peu pour pouvoir réfléchir autour de ça. Et ensuite on peut enchaîner quand on va bien, ensuite on peut s'acquitter de toutes ces tâches un peu citoyennes là, mais on a déjà, on se dit qu'on va pas bien, que c'est pas une fatalité et qu'on s'en sort.
Je passe la parole à notre jeune addictologue Vincent, de votre côté.
Moi, j'ai une approche un peu similaire à celle de Linda, en toute modestie, en tout cas, c'est à ça que j'aspire. Après, je me concentre aussi beaucoup, c'est peut-être mon expérience en psychiatrie aussi qui a voulu ça, parce que c'est comme ça que j'ai développé mes compétences et puis mon plaisir aussi à travailler. C'est, j'essaye d'expliquer aux gens ce qui se passe dans leur cerveau, d'aller au-delà de l'étiquette qu'ils se sont posées ou qu'on leur a posée. Et je trouve qu'on a tendance parfois, je l'ai observé, c'est pas rejeter la faute sur les médecins ou sur les professionnels de santé, d'une manière générale, mais à se contenter parfois des diagnostics et du coup à pointer du doigt une défaillance, un dysfonctionnement. J'aime bien expliquer aux gens qu'au-delà de ce diagnostic, du coup, il y a une explication biologique, physiologique et puis parfois aussi liée à l'histoire de vie, qu'ils ne sont pas responsables de ce qui leur arrive, que du coup, les questions de culpabilité, de honte qui peuvent surgir et puis gangréner. Donc leur expliquer qu'il se passe des choses dans le cerveau et que le cerveau est suffisamment bien fait aussi quand il s'agit de donner aussi des messages d'espoir pour eux, pour trouver des solutions et qu'ils apprennent à se faire confiance là-dedans parce qu'il y a beaucoup de défaitisme, je trouve, dans le champ de l'addiction. Eux ont l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Nous, on leur passe le message aussi que ce sera un combat un peu à vie, entre guillemets. Pour autant, le cerveau est suffisamment résilient pour pouvoir trouver des solutions. J'insiste un peu là-dessus avec eux, moi, en disant que les ressources, elles sont forcément en eux, parce que c'est du vivant, tout ça, et que c'est mouvant. Voilà, après, essayer de valoriser un peu les choses, c'est toujours des personnes qui ont des histoires incroyables à raconter. Moi, je trouve que c'est des rencontres extraordinaires, dont on peut difficilement parler, d'ailleurs. Ça suscite pas mal de passion quand on dit qu'on est infirmier en psychiatrie ou infirmier en prison. Je me trouve toujours un peu bête quand on me demande de raconter des anecdotes, parce qu'à la fois... ça m'éclate pas de raconter une anecdote, et en plus de ça, c'est difficile de rapporter ce qui se passe dans une rencontre de ce type-là.
Ouais, il y a beaucoup de pudeur, ouais. Ouais, ça fait appel à la pudeur, ouais, je suis d'accord avec ça, Vincent. Ouais, complètement.
Merci, Linda Deschamps. Vincent Morisot. L'instant addicto.